C'est le grand mercato dans les émissions, les jeunes remplacent les vieux, tremblés anciens chroniqueurs, ici c'est CMA, pas Orpea. Vous êtes soumis à un devoir d'excellence sous peine de vous faire remplacer par du sang neuf. Est-ce que c'était mieux avant? Eh bien c'est la question qu'on va se poser après. Voici CMA. Bonsoir et bienvenue dans CMA, l'émission qui revient sur les origines des choses. Nous allons plonger dans l'avant de l'après ce soir pour surfer à grande vitesse, tel des dieux. Voici le sommaire. Il y a des marins qui préfèrent être dessus, lui préfère dessous. Bonsoir Florian, quel est ton sujet de fond ?
Je vous parle des sous-marins.
Des sous-marins ?
Voilà.
D'accord, oui. Ok.
C'est voilà.
Bon.
Il fait chaud, donc...
Ouais, ok. Certains surfent sur l'actualité. Lui, il va nous glisser plein d'infos. Bonsoir, Mathias.
Bonsoir.
De quoi nous parles-tu ?
Alors, ce soir, je vous parlerai du surf.
Ok.
C'était comme je vous ai parlé du skateboard la dernière fois, qui était à l'origine du surf. Du coup, là, je vous parlerai du surf.
Mais pas du surf sur Internet, du coup.
Non.
En préambule, je vous parlais de la nouvelle génération. Eh bien, elle est là. Avec lui, ça va aller très vite. Bonsoir, Lucas. Bienvenue dans CMA. De quoi nous parles-tu ?
Ce soir, on va passer à la vitesse supérieure. Vous allez voir.
Ok, écoute, quelle intro, ça promet. Une bonne première partie comme on les aime, donc on aura aussi droit à un Graal qui reviendra sur la toute première émission de Radio G, vous verrez que c'est pas vraiment légal. On salue aussi donc nos chroniqueurs de la deuxième partie, donc Mathias, Olivier et Manu qui nous réservent des sujets originaux d'origine, vous verrez. Mais là, eh bien, il est temps de commencer avec la première partie de CMA. Il peut rester des mois sans qu'on le voie. Il est furtif et ne fait pas de bruit. Pourtant, il est là et c'est le pompon. Voici la chronique de Florian.
Nous partions dans un beau sous-marin vert. Un sous-marin vert, vert comme la mer.
Je t'ai mis la version verte. Hein.
Ah oui.
Bah oui, la version française est verte. Avec les compagnons de la chanson pour les plus jeunes qui nous écoutent.
On ne rajeunit pas.
Alors, sous-marin.
Alors, oui. Petite question pour commencer. À votre avis, qui a inventé le premier sous-marin ?
Qu'est-ce qu'on... Tu es là pour nous le dire.
Non, Vinci.
Alors, Léonard de Vinci à la droite.
Ah ouais, c'est vrai.
Il l'a conçu, mais qui a inventé...
Monsieur Marin.
Physiquement.
Monsieur Marin.
Monsieur Marin.
Claude Marin.
Monsieur sous-marin aussi, oui, non ?
C'est parce qu'en fait, il vivait en dessous.
Le premier à l'avoir conçu... En dessin ou l'avoir fait, l'avoir construit ?
Ah bah le premier a inventé le sous-marin.
J'aurais dit parce que c'est vrai que De Vinci l'avait... Sous-marin, ouais, je sais pas.
Alors, ce n'est pas Léonard de Vinci.
Ah, il avait prévu notre réponse, dis donc.
Eh oui, bah oui, parce que j'y ai pensé aussi, effectivement. Alors, on dit qu'il s'est intéressé au sujet, quand même, il a fait des croquis, tout ça, des plans. Mais il n'a pas été au bout de son truc, et en fait, il a détruit... toutes ces études qu'il avait faites sur les sous-marins.
Ah bah super. Hein.
Donc il a inventé autre chose. En tout cas, il a fait des plans et des croquis d'autres choses, notamment des véhicules militaires, mais pas les sous-marins.
D'accord.
Je sais pas. Jules Verne.
Alors non. Bah non plus. C'est pas Jules Verne, mais la question est finie, Olivier.
Ah oui, bah lui.
Ah merde.
Il a commencé sa chronique. C'est jusqu'à la fin de l'émission, il va se poser des questions.
Alors c'est pas tout à fait un sous-marin. C'est plutôt un objet. Un objet qui permet de faire descendre une personne sous la surface de l'eau.
Un scaphandre.
Alors, c'est pas un scaphandre non plus.
Un tuba.
Non.
Un sac en plastique.
Attendez, on parle pas des montgolfières, on est d'accord. C'est bien sous l'eau.
Hein.
Oui, bah, un sous-marin, c'est ça. Un sous-marin, c'est quelque chose qui permet à une personne de descendre sous l'eau.
J'ai l'impression qu'il nous pose la question, là. C'est ça, vous me rassurez, c'est bien ça.
Je vais vous dire qui c'est, parce que...
Oui, bah oui, on n'a pas 40
minutes. Donc, c'est un Hollandais, il s'appelle Cornelis Drebbel, et il invente une structure, en fait, qui s'apparente à une cloche de plongée.
Ah.
En fait, c'est une cloche qui va sous l'eau, et en fait, avec la pression, l'eau ne remonte pas.
D'accord, donc ça fait... voilà, on reste dedans.
Et une personne peut rester dedans.
Okay.
Et donc, les essais ont lieu en 1624. Elles ont lieu sur la Tamise, puisqu'en fait, c'est à la demande du roi d'Angleterre de l'époque.
Mais c'était encore relié vers le haut.
Oui.
Il n'y a pas de bouteille d'oxygène
dedans. Pendant longtemps, en fait...
Comme le scaphandre, quoi.
Il descendait dans l'eau, mais en fait, tout était toujours relié à la surface.
Et puis, c'est comme... je me souviens, les Dupont, ils pompaient.
Il tournait.
Il fallait toujours ramener de l'air, parce que sinon...
Pour refaire monter.
Avec la pression, oui, l'air ne descendait pas.
Voilà. Donc ça, c'est le premier, c'est le premier sous-marin.
C'était quand ?
1624.
D'accord.
Pourquoi c'est...
Bah non, bah pour, quand ça fait vieux, oui, 1624. C'est-à-dire alors... qu'avant, on descendait jamais sous l'eau, quoi.
Bah non. Sauf en apnée, pas de...
Bruno se rappelle des souvenirs.
Bah ouais, en 1515, à Marignan, personne n'était descendu sous l'eau. Quoi.
Et non, surtout que Marignan, ce n'est pas au bord de l'eau.
Alors... c'est la seule date que je connaissais et commence pas à m'emmerder.
Bon, alors sinon, au 17e et au 18e siècle, donc les deux siècles qui suivent l'invention, on a plusieurs savants et industriels qui se penchent sur la question du sous-marin et qui multiplient les prototypes. Alors, ils construisent ça de toute forme et de toute matière. Donc, on utilise du bois, on utilise même des poches en cuir pour aller sous l'eau, en acier et autres matières. Tous sont des flops.
Ils coulent.
Ils coulent, en tout cas ça fonctionne pas. Soit ils prennent l'eau trop vite, soit.
Mais il y avait des humains dedans.
Soit ça marche pas. Alors à chaque fois ils y vont avec une personne en général.
Mais ils en ont zigouillé combien ?
Une ou deux personnes. Non, mais ils sont remontés rapidement à la surface.
Ah,
ils n'ont pas réussi.
Ouais.
Ça n'a jamais marché. Donc ça se succède comme ça. Mais on comprend quand même très vite la façon de faire plonger le sous-marin. Parce qu'en fait, comment fonctionne un sous-marin, en tout cas quelque chose qui descend sous l'eau. Pour faire plonger le sous-marin, pour faire descendre le sous-marin sous l'eau, on remplit d'eau.
Mmh.
Et pour le faire remonter, on vide l'eau, et donc on remplit d'air, et ça remonte.
D'accord.
Voilà.
Principe d'Archimède.
Tout à fait. Merci Bruno. Et donc ces embarcations restent toujours connectées effectivement à la surface. En 1775, l'américain David Bushnell invente la Turtle. Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Bah oui, c'est une tortue.
Alors en fait, c'est un sous-marin qui a une forme, une espèce de grosse palourde. Alors tortue, on y repassera, mais en tout cas, voilà. Et on met un homme à l'intérieur et il active une manivelle pour faire tourner une petite hélice et pour se déplacer.
Ok.
Parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait rien, on ne pouvait pas se déplacer.
Ah oui, ça tombait et voilà.
Et maintenant, on se dit, tiens, si on mettait un petit truc à l'intérieur pour...
Bah oui, surtout que les autres expériences n'ont pas marché. Donc on s'est dit, bah ouais, c'est une bonne idée. Et ça ne marche pas,
mais après,
persistons.
Mais il y avait du hublot quand même.
Ah non, c'est pas ouvert.
Mais quel intérêt Tu mets un mec dans une boîte de concert, tu le fais tomber dans l'eau et puis...
Ou alors un tout petit truc pour avancer, mais c'est vraiment très rudimentaire. Hein.
Genre tu sais pas où tu vas.
C'est ça.
Bah non. Mais ils ont quand même utilisé la Turtle pendant la guerre d'indépendance américaine, donc en 1776, pour essayer d'aller couler les bateaux anglais, voilà.
D'accord, mais
ça n'a pas forcément fonctionné, je vous le dis tout de suite.
Bah ouais, mais parce que c'était plus relié avec l'eau, par contre.
Si, la Turtle est toujours reliée avec l'eau.
Mais comment tu veux faire couler les bateaux ? C'est-à-dire qu'il y a un bateau qui n'était pas loin, puis il y avait le fil...
En fait, ils s'imaginaient qu'ils n'allaient pas se faire repérer, mais en fait, si.
Bah ouais, c'est un peu bizarre. C'est un peu zarbi. Ok.
Bon, écoute. Ensuite, j'arrive en 1797, et là, l'Américain Fulton construit, attention, le Nautilus.
Ça
vous connaissez.
Mais oui.
Donc le nom n'est pas venu de nulle part.
Et non. Donc ce Nautilus est en acier recouvert de cuivre et il est propulsé par une hélice manuelle, donc même principe que la Turtle. Hein. C'est toujours quelqu'un qui active une hélice avec ses mains. Et d'ailleurs, il propose son invention à la France et à la Grande-Bretagne qui refusent. Ça n'intéresse pas la France ni la Grande-Bretagne, ni aucun pays d'ailleurs au monde.
D'accord.
Et d'ailleurs, Jules Verne a repris ce nom de Nautilus pour son récit 20 000 lieues sous les mers. Qui est publié en 1870. Alors, il prend le nom de Nautilus, mais il ne se réfère pas forcément à ce premier Nautilus-là, en fait. C'est plutôt les sous-marins qui arriveront au 19e siècle.
Ah bah oui, dans l'histoire de Jules Verne, il n'y a personne qui pédale pour faire avancer.
Bah non, voilà. Non. Mais donc c'est pas celui-là, mais en tout cas, il reprend le nom.
Ok.
Il faut vraiment attendre 1888 pour trouver les premiers sous-marins modernes, donc avec le Gymnote... qui est un sous-marin français, désolé.
Ouais.
Un sous-marin français torpilleur à moteur électrique
qui
fait 18 mètres de long et il reste en service jusqu'en 1908.
Là, il n'est plus relié, on est d'accord ?
Non, il n'est plus relié celui-là.
Ah, ça y est.
Et non,
on a inventé, vraiment sous l'eau. On a inventé les bouteilles et tout.
Pas très profond, mais en tout cas, c'est vraiment le premier sous-marin comme on connaît aujourd'hui avec une coque très élancée. Et puis les années suivent, on a des évolutions majeures qui sont le périscope, quand même, pour aller voir ce qui se passe en haut. La propulsion mixte avec du diesel en surface et de l'électricité en plongée. Souvent, c'est ça. Et la propulsion nucléaire, bien sûr, qui arrive en 1954 avec le USS Nautilus.
Sous-marin américain. Il s'appelle aussi Nautilus, d'accord.
Donc là, l'emploi du sous-marin, on voit quand même qu'il est, dès le début, très militaire.
Ouais.
Il est employé directement pour l'armée, la guerre.
Il fallait bien couler les bateaux avant de pouvoir y aller en Nautilus pour aller les voir.
Bah oui, c'est ça. Mais il existe quand même des sous-marins civils, notamment pour les recherches océanographiques, pour le sauvetage en mer ou à des fins industrielles, pour la recherche d'hydrocarbures, le forage, tout ça. Et d'ailleurs, savez-vous à quelle profondeur un sous-marin a été
au maximum
le record de profondeur pour un sous-marin? Alors, c'est un sous-marin civil. Hein.
Ouais. Alors déjà, ne serait-ce que pour aller voir le Titanic, je pense que c'est descendu très très bas. Mais c'est encore plus bas.
C'est pas le plus profond. Oui,
ah, c'est pas le plus profond, ouais. Non, donc dans les fosses des Mariannes, dans la fosse des Mariannes, j'imagine.
Le Titanic est pas très profond quand même.
Non. Ouais.
Dans la fosse des Mariannes, effectivement.
Bah ouais, c'est l'accès le plus profond.
Ah, mais elle fait combien?
12 km, 12 000 mètres. Un peu moins.
Un peu moins quand même.
10 000, 10 000.
Un peu moins. Alors la fosse des Mariannes fait presque 11 000 mètres de profondeur.
D'accord.
Et le sous-marin.
Donc ils ont pas été au fond alors?
Non. À 50 mètres d'écart, donc ils sont allés à 10 925
mètres. Ah oui, voilà, donc c'était pas loin quand même.
Presque au fond. Donc ça a été réalisé par l'explorateur milliardaire Victor Vescovo. Et à cette occasion, on a découvert 4 nouvelles espèces et aussi un sac plastique. À 11 km de profondeur, dans la fosse des Mariannes, on
d'accord.
a découvert un sac plastique.
Ah ouais, il y avait un Leclerc là-bas. Hein. Il s'implante partout, hein. c'est dingue ça.
C'est un peu ce qu'a fait quand même le tour du monde.
Ouais.
Au-delà du record, en fait, c'est...
Ils ont surtout parlé du...
La pollution va quand même jusqu'à 11 km là-bas, dans les océans. Oui. Donc ça montre un peu l'ampleur. Puisque pour les sous-marins militaires, eux, par contre, ils vont qu'à 400 mètres de profondeur.
Ah d'accord.
Officiellement.
Oui.
Puisqu'effectivement,
ça, on n'a pas les chiffres.
Les secrets défense et les secrets qui sont liés à la guerre. Voilà. Autre question? Est-ce que j'ai le temps encore?
Non, vas-y, rapidement.
D'accord. Alors, à votre avis, combien il y a de sous-marins actifs aujourd'hui dans le monde qui sont dans l'eau?
Oh là là, mais il y a plein de pays. Moi, je dirais plus d'une centaine.
Hein. Une cinquantaine.
D'accord, 50,
non, 100. Des sous-marins militaires.
Des sous-marins. Alors, des sous-marins militaires, oui.
Ouais, militaires. Il n'y en a pas tant que ça. Hein.
C'est vrai qu'en France, on doit en avoir deux. En France, combien en France?
Une centaine.
Une centaine en tout, d'accord.
Ouais, et alors, c'est combien?
Eh bien, vas-y.
J'allais dire une vingtaine, mais ouais.
Lucas, combien? Non.
Pas du tout.
Alors, il y en a à peu près 500.
Il y en a quand même plus.
dont 144 à propulsion nucléaire.
D'accord.
Et parmi ces 144 à propulsion nucléaire, 50% sont des sous-marins d'Amérique. Enfin, des sous-marins.
D'accord. Oui, en France, on en doit avoir un ou deux.
Des États-Unis.
C'est
voilà.
Énorme. D'accord.
D'ailleurs, en France, nous avons 10 sous-marins.
Ah, bah, je crois que j'aurais cru un ou deux, moi. 10 Oui, mais nucléaire, on en a.
Ils sont tous à propulsion nucléaire maintenant.
D'accord.
Alors, mixte.
Oh, on est bien fourni quand même.
En ce moment, ils sont tous dans la mer Noire.
Tu m'étonnes.
Donc, ils sont mixtes en général. Ils sont nucléaires pour aller sous l'eau et ils sont en diesel pour la surface.
Ok, voilà. Très bien.
Et d'ailleurs,
oui.
Un des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français est parrainé par le département du Maine-et-Loire.
Parce
qu'ils ont signé le 12 juillet 2022. L'acte de parrainage de ce sous-marin qui s'appelle le Triomphant.
Mais dis donc, c'est pas une information qu'elle est super fraîche quand même.
C'est bien. Tu vois, on aurait pu parrainer une colombe ou un arbre, mais non. On a parrainé un sous-marin nucléaire. C'est bien,
ouais,
c'est bien,
il
n'y a pas de souci. Merci Florian. Dans un instant, on surfera avec Mathias et on tapera frénétiquement sur notre clavier avec Lucas. Mais avant, retour sur les origines de Radio G avec le Graal.
Question de Yann, quelle est la toute première émission de Radio G?
Alors, pour Radio G, je ne sais pas, puisque ce n'est que la continuité de Radio Gribouille. Mais sur elle, oui, il y a bien eu un début. Tout commence avant 1981, où des passionnés de radio créent en toute illégalité des radios pirates. Parmi les pionniers de Radio Gribouille, qui deviendra Radio G, il y a Fred. Et il nous parle de la première émission de la radio.
On a fait une émission pendant 2 heures enregistrée sur des bouts de bricoles machin avec un émetteur à 100 francs acheté à l'époque qu'on pouvait, c'était un modèle italien, on pouvait acheter des émetteurs, mais il y a un truc bricolé. Hein. Et on a fait un truc qui s'appelait Radio Orang-Outan n'emporte le vent. En direction de Belle Baie 1, Belle Baie 2, on émettait sur 20 mètres, un gros maximum, et on avait mis l'émetteur et on s'était barré parce qu'on avait peur d'être pris par la police. Et à l'époque, il faut savoir aussi, quand tu émettais, sauf erreur, tu étais pris par les forces de police assez rapidement, PS ou pas PS, hein, par ailleurs, et que la sanction, même si elle n'était pas appliquée, c'était la tôle.
Eh oui, hein, sacrée histoire quand même. Hein. Aujourd'hui, on est un petit peu plus libre pour faire de la radio. En tout cas, c'était le Graal à retrouver sur le site Radio G, radio-g.fr, rubrique Podcast Plus. Tout à l'heure, un Graal spécial Angevin, puisqu'on répondra à la question, est-ce qu'on dit rue du Mail ou rue du Mel?
Mail.
Ah, et pourquoi on dit seul, comme on le dit. Vous êtes toujours dans CMA, l'émission qui revient sur les origines des choses. Et nous retrouvons maintenant celui qui arrive à surfer donc sans internet. Voici la chronique de Mathias.
Alors du coup, les origines du surf. Alors, quand j'ai fait ma chronique, comme je disais au début, j'ai fait une chronique sur le skateboard qui disait qu'en fait, c'était tiré des surfeurs qui voulaient s'entraîner l'hiver sur du skate. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir les origines du surf. Donc en regardant sur internet, j'ai vu que les origines du surf se situent dans le Pacifique.
Avec les vagues.
Avec les vagues.
Pour aller chercher où elles sont.
Donc c'est James Cook, le marin britannique, qui est la première personne à avoir vu un surfeur aux îles Sandwich. Alors aux îles Sandwich, je me suis dit c'est quoi
c'est des vraies îles.
Des îles Sandwich. Oui, oui. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Existe, ouais.
Alors c'est en fait c'est les îles d'Hawaï, tout simplement, qui étaient appelées comme ça, les îles Sandwich. Donc lors de leur découverte par James Cook, je n'ai pas trouvé pourquoi c'était les îles Sandwich.
Parce qu'elles étaient entre deux.
Ouais.
Non, il y a un monsieur qui s'appelle Sandwich.
Ah ouais.
Oui, d'accord. Il les a découvert, je crois que c'est ça. Mais c'est pas du tout la chronique, donc on,
voilà.
On en fera une autre.
Comme c'est intéressant, j'ai trouvé l'anecdote assez drôle. Du coup, il a été tué par les indigènes, donc ça c'était moins drôle.
Ah, ils ont mangé un sandwich.
D'où le nom d'ailleurs.
D'où le nom, voilà.
Peut-être. Peut-être qu'il y a une cause à effet, je ne sais pas.
Mais il surfait sur quoi le monsieur alors? C'est des premières. Une planche
sur la main. Alors, j'y viens. Donc,
vas-y.
Oui, il a été tué peu après sa découverte. Il laissa sa place au lieutenant James King, qui fut le premier à relater dans le journal de bord la pratique du surf, telle qu'elle avait pu être observée à Kalakaua Bay. Alors,
oui, on
n'est pas
de
prononcer ça parce que c'est imprononçable, sur la grande île d'Hawaï. Mais l'histoire du surf commença réellement à Hawaï, puisque l'archipel est la première à médiatiser ce sport.
Okay.
C'est au 15e siècle que le surf était donc une pratique courante dans la population des îles hawaïennes.
Ah, 15e siècle, ça fait quand même un sacré bout de temps qu'on surf, dites donc.
Ouais, ça fait vraiment.
Moi, je crois que c'était 20e,
c'était
moi.
C'était quoi alors qu'ils avaient des planches
Et alors, du coup, elle permettait en fait aux chefs de tribu qui défiaient les mers et les éléments sur des longues planches en bois de prouver leur puissance et leur supériorité. Et les Polynésiens, quant à eux, se mesuraient entre eux. Dans leur communauté.
D'accord.
Et alors, plus précisément, le surf a pendant longtemps été une partie intégrante de la culture hawaïenne comme une pratique sociale et culturelle, presque religieuse même en fait. C'est un passe-temps qui permettait notamment de prouver ses qualités physiques. Et la majorité des surfeurs pratiquaient sur des planches courtes nommées alaya. Je sais pas si ça se prononce exactement comme ça.
D'accord.
En position couchée ou à genoux. Et il n'y avait que les chefs qui se distinguaient socialement par la possession de très longues planches holo, dont la construction était très coûteuse et ritualisée, et qui pouvait en fait pratiquer.
Debout.
On pouvait se tenir debout.
C'est les seuls où on pouvait se tenir debout, d'accord.
Pas sur les autres. Donc la pratique en fait a été ensuite interdite lors des colonisations par les Américains, qui quand ils les voyaient en fait, comme ils étaient presque nus, tout ça, enfin voilà, ils ont
ça les choquait.
Ça les a choqués.
Oh. Voilà. Super. Donc,
c'est dommage quand même.
On n'empêche qu'ils ont repris la pratique après, du coup. Oui.
Alors c'est Duc Kamoku.
Oui, les noms, on les croit.
Je cite.
On cite.
Qui fait réapparaître le sport en 1900 à un champion olympique de natation.
Ah, 20e siècle, d'accord.
Voilà, ça vient de. Ouais, il y a un bond dans le temps.
C'est ça, voilà,
c'est
vraiment démocratisé plus tard. Ouais.
Celui-ci fait en fait une démonstration en Californie et en Australie pour donner une nouvelle impulsion au surf. Et c'est vrai que quand j'ai vu l'Australie, je me suis dit, oui. Dans ma tête, ça.
Les surfeurs d'Australie, tout de suite.
Ça m'a paru vachement.
Les kangourous sur les planches et tout.
Les kangourous sur les planches, exact. Non, mais je sais pas pourquoi, ça m'a paru très familier.
Forcément.
Et donc, ça donnait une nouvelle impulsion au surf. Donc, après avoir découvert la beauté du surf.
C'est sûr que le kangourou, ça donne de l'impulsion.
Il est encore là-dessus. C'est bon, la vanne est passée, c'est
ça
bon. Rajoute. Non, rajoute pas, c'était nul.
Après avoir découvert donc, la beauté du surf, l'écrivain Jack London publiera de nombreux articles sur ce sport encore méconnu du grand public. Le surf reprend alors peu à peu en Australie et aux États-Unis. On donnera sa passion malgré les guerres et les conflits. L'esprit du surf est né. Voilà.
Voilà.
Vraiment,
Et le mot surf alors, ça vient, c'est parce qu'on surfe. C'est en anglais, ça veut dire glisser peut-être.
Je sais pas.
D'accord, ok, non, c'est bon, je pose.
Non, je rigole. Non, je sais pas. J'ai pas pensé à regarder l'origine du mot.
Ok.
Alors, d'après vous, en fait, quand est apparu le surf en France?
Alors, on a donc dit début 20e, donc...
Non, les années 80...
Années 40,
années 80.
Après-guerre.
Années
40, 50.
Ah oui, amené par les Américains, remarque.
Je dirais
c'est possible.
Années 50, effectivement.
Ah, ouais, c'est ça.
Ouais. Sur la côte basque, il y a le premier club Waikiki qui a été créé en 1959.
Waikiki.
Il n'y a que des vagues là-bas. Ouais. Il n'y a que là-bas qu'il y a des vagues, des grosses vagues.
Ah, c'est sûr que le club de Mayenne, il y a moins de surf. Hein.
Et alors, la plus ancienne planche de surf connue à ce jour a été découverte en 1905 à Ko Okena, voilà, sur l'île d'Hawaï, à l'intérieur d'un tombeau. Les archéologues pensent qu'il s'agisse de la sépulture d'une chefesse.
Une chef.
Je pense qu'il y a vraiment une. Plusieurs fois, c'est écrit chef-esse.
Chef-esse.
Donc je pense que vraiment.
Alors c'est très étonnant, je ne connaissais pas le mot chef-esse.
Moi aussi, je trouvais ça drôle, mais c'est écrit chef-esse.
Une chef-esse.
Alors je respecte vraiment.
C'est plus de l'inclusivité, ça.
Je respecte. Donc nommé Kaneamua, Numa, qui régnait au début en fait, du XIVe siècle, fabriqué dans le fond de l'arbre à pain. Alors pain, écrit pain comme du pain qui se mange.
Le site, à mon avis.
Oui, alors c'est un étudiant qui l'a fait. C'est le stagiaire de 3e qui l'a fait.
Non, mais il y a eu un lien et tout, mais j'ai trouvé ça trop bizarre. Ouais, j'ai dit bon, je prends. Moi,
c'est le site de Jean-Michel à peu près. C'est un site très très connu.
Ben non, mais en plus, il y avait plein de références de notées avec des liens. Enfin, vous savez,
il avait juste un petit problème avec l'orthographe.
Ouais, mais peut-être. Bon, okay. Enfin bon, bref, il y avait cette planche qui était très vieille, de 1905, et c'était cool. Et voilà.
Et voilà.
C'est cool.
Très bien.
Et l'origine du mot surf ?
Oui, ah, tu l'as trouvé sur le... Ah, mais est-ce que notre champion Wikipédia, forcément, qui a toujours son petit Wikipédia avec lui, et donc l'origine de surf ?
Alors, le terme surf, en fait, prononcé surf, est apparu en français en 1952, c'est la troncation.
Ah là, c'est la
troncation.
C'est la soirée de...
Oui, c'est la... je vais me coucher après, je pense.
Bon, c'est le mélange des mots,
Et du nom composé anglo-américain, surf riding, introduit en 1926 et signifiant monter les vagues déferlantes.
Chevaucher les vagues.
Riding, chevaucher,
surf. On a réduit en surf.
Merci en tout cas, Mathias.
De rien, avec plaisir.
C'est sa première fois à la radio. Nous accueillons pour un soir un nouveau chroniqueur qui vient du côté de Grenoble. Attendez, attendez de voir sa chronique avant d'applaudir quand même. Hein, lui mettez pas la pression.
Il est heureux en tout cas. Il est très heureux.
Il s'est fait un peu piégé. Certains le connaissent déjà avec sa célèbre chaîne Twitch Netrox TV. Ce soir, il nous parle d'un jeu que les plus de 20 ans ne connaissent peut-être pas. Ce soir, il ose nous parler d'Ozu. Voici la chronique de Lucas. The All-Beat Agents are at your service. Hey! Voilà, il n'y a que ceux qui connaissent qui vont avoir la référence de ton jingle. Lucas, c'est à toi.
En 40 ans, on est passé du Pong, où une balle carrée progressait mollement sur un écran de télévision pour rebondir sur des raquettes rectangulaires, à un jeu de rythme aux vitesses hallucinantes. D'un simple bip unique, on joue sur une déclinaison infinie de musique. On m'a dit jusqu'ici qu'on parlait des origines des choses, alors je vous propose de découvrir le jeu Ozu et ses origines. Déjà, connaissez-vous Ozu ?
Alors, Ozu, qui connaît Ozu ? C'est Ozu, Ozu ? Ozu ?
Les deux.
Les deux, on dit les deux. Ozu, enfin, ça s'écrit comment ?
Osu.
Osu, avec un exclamation,
on dit
ça ?
Os, Ozu.
Ozu, Ozu.
Je connais ? Connais pas.
Enfin, ça a été créé par un Américain, mais...
Alors, qui connaît ?
Non. Bah, moi, je connais, mais par son biais, du coup.
Ah, par son biais, oui, forcément. Et là, Ozu, on connaît Ozu aussi dans le public ? Non, on connaît pas Ozu. Ok. Pierre-Benoît, Ozu, tu connais le jeu Ozu ? Non, il connaît pas non plus. Bon, bah, on va apprendre des choses ce soir.
Aujourd'hui, on suit.
C'est joli. C'est joli. Alors, on y va aussi.
Ce n'est pas un jeu récent, puisqu'il fête ses 15 ans cette année. 15 ans et pourtant des millions de joueurs, dont moi encore aujourd'hui. En 2020, c'est plus de 11,6 milliards de parties jouées par plus de 15 millions de joueurs.
Ah, bah pas nous.
On n'est pas dedans.
On n'est pas dans les 15 milliards. Ça fait beaucoup, ça.
15 millions.
15 millions de joueurs.
11,6 milliards de parties jouées.
Pour 15 millions de joueurs.
Moi, je dois avoir 150 000 parties jouées.
Ah oui, quand même.
Ah oui, quand même.
Mon actif, ouais.
Oh, la page.
Ouais, c'est le confinement qui est passé par là.
Ouais, bien sûr.
Il faut dire que le jeu est gratuit, qu'il marche sur tous les ordinateurs et surtout que sa communauté est très active, entre le partage des scores, mais aussi les nombreux lives sur les plateformes comme Twitch ou YouTube. Avant de voir le principe de ce jeu ultra rapide, je vous propose d'en connaître les origines. Car peut-être que les plus anciens connaîtront l'ancêtre d'Osu, le jeu Osul Tatakae Oendan.
Ah bah oui, je connais mieux.
Oui, on connaît mieux ça. Osul Tatakae
Oendan.
C'est plus la génération. C'était son nom qu'on... Non, je connais pas.
C'est le nom japonais, plus connu ici en Occident sous le nom d'Elite Beat Angel. Ce titre a massacré bon nombre d'écrans Nintendo DS au début des années 2000.
Ça, je connais. Je jouais à ça sur DS.
Ah
ouais ? Oui. Mais personne d'autre. Il n'y a que moi. D'accord, il n'y a que des vieux dans cette émission.
C'est quoi la DS ?
Hein ? C'est quoi la DS ? C'est une voiture.
Ah, d'accord,
ça, tout de suite, tu vois.
Le principe en étant très simple et totalement décalé, pour sauver les personnes en difficulté, des agents spéciaux venaient danser. Pour ce faire, il fallait taper un rythme sur l'écran tactile de la console. Les titres musicaux étaient alors des grands standards, David Bowie, Madonna, Avril Lavigne et d'autres groupes internationaux. La difficulté du jeu était croissante, les rythmes des frappes se faisaient plus rapides. Il faisait aussi ne taper qu'au bon moment. Un cercle se formait à l'écran, prévenant d'une frappe imminente. Le rond rétrécissait alors pour ne devenir qu'un point au moment de la frappe.
Ça, personne n'a vu ces jeux-là. On voit le cercle qui réduit et hop, on appuie quand là. Non ? Non plus.
Bon, ok, ok. Je suis tout seul. Je me sens seul ce soir. Enfin, on est deux. Hein, voilà.
Mais si maintenant ça me parle, mais c'est parce que tu m'y as fait jouer aussi. En fait,
oui, aussi.
Voilà,
d'accord. C'est... On va ouvrir un EHPAD, moi je te le dis.
C'est ce principe qui est repris dans Osu, mais on oublie les agents et les histoires. On retrouve dans Osu tout type de musique. On ne les appelle d'ailleurs pas des musiques, mais bitmap. Les joueurs peuvent créer leur propre bitmap en plaçant comme ils le souhaitent les actions à effectuer en rythme sur les bitmaps. On a donc là un jeu infini et, comme je le disais, gratuit.
Ah, mais ça veut dire que tout le monde peut faire son propre jeu, quoi.
Oui.
Ah oui, d'accord. Donc, open bar, des millions de... Oui. Mais alors, il doit y avoir des trucs impossibles. Les gens,
ouais.
Ceux qui font mal leur travail, qui font un truc de n'importe
en fait,
quoi, on n'y arrive pas.
Il y a tout un processus pour avoir des maps rankées, ça s'appelle. Donc pour qu'elles soient classées en fait, pour que les joueurs aient un classement sur internet pour voir les meilleures performances. Donc il y a des maps qui ne sont pas classées, qui sont dans le cimetière.
Ah
voilà.
D'accord, voilà.
Donc c'est des maps que des personnes ont faites et que ça n'a jamais été approuvé. Et puis il y a celles qui sont classées.
Et c'est la communauté qui fait ça, quoi. Il y a une map qui arrive, on la teste. Et puis
en fait, toutes les maps ont été faites par la communauté.
D'accord.
Il n'y a pas de personne spécifique qui en fait. Mais j'en ai fait, mais c'est compliqué, quoi.
C'est compliqué
juste
à faire.
Pour faire 10 secondes, tu prends une bonne heure pour avoir le bon rythme et tout.
Ah ouais.
Ouais, c'est très long.
Donc ça reste possible à faire, sinon c'est pas.
Non,
jouable,
quand
c'est pas
quand
drôle,
t'as l'habitude, c'est rapide. Ouais. Moi, j'ai pas l'habitude.
Ok.
Pour jouer, il vous faut une souris ou une tablette graphique et un clavier. Il faut donc gérer la main droite et la main gauche de façon acronome. Il faut cliquer au bon endroit et au bon moment. Si le jeu est simple de conception, il est extrêmement technique à jouer. Plus le timing et l'emplacement sont respectés, plus les points s'accumulent. La moindre erreur fait chuter vos points de... les points pour la précision. On appelle ça l'accuracy. Ouf. Vous serez donc classé en D pour les plus nuls comme Bruno, ou S pour les plus forts comme moi.
Attends, c'est sa première chronique qui me vanne. Tu vas te calmer là déjà, hein?
Osu a donc été créé il y a 15 ans par un informaticien, Dan Herbert, qui a mis en open source pour que tout le monde puisse y jouer gratuitement et même l'améliorer ou le décliner à l'infini. Il y a maintenant une coupe du monde Osu, la OWC, c'est devenu un e-sport. Et il n'y a pas que ces compétitions, il y en a beaucoup d'autres.
D'accord.
Il y en a une la semaine dernière.
Ah oui, donc c'est... il y en a partout, il y en a tout le temps.
En 2019, c'est 43 pays qui se sont affrontés lors de la Osu World Cup. Sur le jeu de base, la France est classée 6e, mais notre meilleur joueur, il est que 84e mondial. Et elle s'en sort un peu mieux dans les variantes Taiko du jeu, où l'écran défile de droite à gauche. Il y a aussi le mode Mania, qui est un piano.
Ah oui, différent, d'accord. Et toi, t'es combien au monde ?
Sur le mode standard, je suis 20 000 mondial.
Waouh.
On rappelle le nombre de millions de...
Ouais, oh, classe,
trop doux, 20 000 sur...
Et voilà. Je suis 600e français.
Ah, bah dis donc.
Et on a quand même un champion.
Respect.
Hein, bravo. Ouais. Et pitié, enfin, surtout, moi j'ai une pitié pour son clavier. Parce que c'est le genre de truc, il faut se frapper le clavier comme un malade.
Je vais le changer la semaine prochaine.
Oui, d'ailleurs, tu changes de clavier souvent, ça le pète le clavier à force de taper dessus.
Ça fait un an que j'ai, ouais.
Mais c'est toujours la même touche qu'on tape
Moi, t'en as deux.
Il y a deux touches, donc il y a deux touches qui explosaient sur le clavier, quoi.
Non, mais moi je les change. Enfin, globalement, si tu prends par exemple AZ, bah tu vas prendre celle d'à côté si elle marche plus. Enfin,
ah, mais d'accord, le voilà. Clavier, à la fin, il n'y a plus aucune touche qui marche.
Oui, mais donc, tu utilises deux touches et ta souris.
Ok. Enfin,
Donc faut appuyer sur la touche quand en fait. Moi, j'ai pas.
Mais quand le rond devient une petite pointe, appuie juste à ce moment-là.
Ah, c'est le principe du rond qui.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, ok, très bien. Donc, je comprends maintenant pourquoi quand on reçoit des messages de jeunes, il manque des lettres.
Il manque des lettres.
En fait, ils ont explosé leur clavier et ils écrivent bien, mais ça imprime pas. C'est normal. Autre chose, c'est tout.
Ouais.
Eh ben, mais très bien. On peut l'applaudir. Très très bien. Pour ceux qui ne voient pas du tout ce que peut être une bitmap d'Ozu, eh bien, voici un exemple de musique. Bah dites donc tu connaissais cette musique, oui, vous connaissiez donc
évidemment
oui, forcément oui, mais c'est une des plus lentes hein, dans le genre j'ai choisi, parce que sinon elles sont largement plus rapides hein. Faut voilà, ça tape très 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 fort. En tout cas voilà, ça s'appelle Ozu, si vous voulez voir bien sûr. vous pouvez aller sur la chaîne de Lucas qui s'appelle Netrox TV. Allez. Pour se remettre de nos émotions, ben rien de tel qu'une deuxième partie de CMA, qu'est-ce que vous en pensez ? Allez,
oui.
Sommaire. Le cinéma aussi aime bien revenir aux origines. Bonsoir Olivier, quel est ton sujet ?
Je vais vous parler de mythologie nordique.
Ah, bah ça fait un peu de fraîcheur, c'est bien, merci oui. Olivier. Nous aurons ce soir également le grand retour de Manu, et comme on était en dépression depuis son départ, elle va nous soigner une belle chronique ce soir.
Oui.
On parle de quoi, Manu ?
Eh bien, de psychanalyse, mes petits-enfants.
Oh, on va pouvoir s'allonger sur le fauteuil, quoique maintenant, il paraît qu'on ne s'allonge plus, mais bon. On ajoutera un petit Graal bien angevin et on aura alors une belle deuxième partie. Alors ne la ratons pas, voici la deuxième partie de CMA qui commence. Il est mythique sans être mytho, le péplum c'est son genre, la déesse sa voiture. Voici la rubrique ciné d'Olivier. Imaginez Olivier là, assis sur le trône, les éléphants à droite et gauche.
Moi je le vois avec son petit pagne là.
Avec le petit pagne, avec les deux esclaves de chaque côté. Ouais, tout à fait.
Oui, alors je voulais revenir sur la mythologie, et plutôt la mythologie nordique. Alors, je profite de la sortie de Thor.
Il y a 15 jours, effectivement, Thor est sorti. Ouais.
Voilà, et puis il y a quelques erreurs quand même qu'on fait au cinéma au niveau mythologique. Alors par exemple, dans tous les films avec les Vikings notamment, les guerriers expliquent qu'ils veulent mourir au combat pour rejoindre le Valhalla. Le Valhalla, c'est le paradis d'Odin à Asgard. Mm-hmm. Alors certes, le Valhalla, ça existe, mais ce n'est pas le seul paradis. En fait, il faut savoir que dans la mythologie nordique, il y a deux paradis. Donc il y a le Valhalla et puis il y a le Volksvanger.
Tu pensais aussi.
Le Volksvanger.
J'attendais bon.
Mm-hmm. Et en fait, ce qui se passe, c'est... D'abord, le Valhalla, c'est pour les guerriers offensifs, ceux qui combattent. Donc là, quand ils meurent, il y a les Valkyries, c'est des femmes chevalières.
Fromage.
qui viennent chercher des...
n'importe quoi. Mais faut-il te calmer un peu.
Non, les Valkyries, elles viennent chercher les guerriers et elles les emmènent au paradis, au Valhalla.
Ok.
Il y a aussi les guerriers offensifs, ceux qui protègent leur famille, leurs biens.
Défensifs, du coup.
Défensifs, ouais. Défensifs. eux, par contre, ils vont au Volkswanger, qui est le paradis. C'est une plaine qui est habitée par la déesse Freya.
Ah oui.
En fait, c'est vraiment la moitié des gens qui vont au Valhalla et l'autre moitié qui vont au Volkswanger. Et l'histoire a retenu que le Valhalla dans les films. Quand on regarde Viking, la série ou d'autres séries.
Ça devient compliqué s'il y a deux paradis.
Il y a deux paradis.
C'est plus simple à dire en même temps Valhalla.
Oui. Ça sonne mieux. Alors, une autre approximation, on n'arrête pas dans Thor, par exemple, Loki est toujours présenté comme le fils adoptif d'Odin et donc le frère de Thor. Donc Loki, on le répète, c'est le dieu de la discorde, du mensonge, des illusions. Il a le don de métamorphose. Mais en fait, c'est faux. C'est pas le frère de Thor, du tout. Dans la vraie mythologie, Loki, c'est le frère adoptif d'Odin. Et donc, au final, c'est l'oncle de Thor.
Bah oui, on avait Thor.
Voilà. Et dans les Marvel, on a considéré que c'était deux frères.
Non, d'accord.
C'est pas du tout deux frères.
Ah, c'est pas des frères, c'est son oncle.
C'est son oncle.
D'accord. Ouais, parce qu'ils ont le même âge. Donc ça marchait pas.
Et puis une autre particularité, je voulais revenir sur le mythe de la sirène.
La petite sirène.
La petite sirène. Bah, oui, c'est important dans la mythologie scandinave. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment dans la mythologie, c'est différent les sirènes suivant la mythologie grecque et la mythologie scandinave.
Une qui fait pain et l'autre pain.
D'ailleurs, en anglais, il y a deux noms pour sirène. Il y a sirène, ça se rapporte à la mythologie grecque, à une sirène grecque. Et mermaid, la little mermaid, mermaid c'est sirène, ça a un rapport avec les sirènes scandinaves. Alors, est-ce que vous savez ce qui différencie les deux sirènes?
Ben oui, est-ce que ce sont toujours des femmes avec qui vont dans l'eau ou...
Alors, on a beaucoup entendu parler des sirènes plutôt grecques, notamment à travers Ulysse. En fait, ces sirènes, elles n'ont pas un corps de mi-femme, mi-poisson.
D'accord.
En fait, ce sont des oiseaux.
Ah bon ?
Mais oui, d'ailleurs.
Les sirènes, c'est des oiseaux ? Ah non, mais là, ça va plus. Mais tout un
elles
monde s'écroule.
Elles sont mi-femme, mi-oiseau, et elles se jouent notamment en Sicile. On voit bien sur la gravure, là, on voyait bien que c'est des sirènes.
Ah bah, sur la radio, ils le voient bien, oiseaux, ça, je peux te le dire. Mais, ah bon, d'accord, c'est des oiseaux.
Mais oui, exactement.
Mais alors, les poissons, ça vient d'où, alors ?
Attends, je vais y venir.
Sirène de Copenhague.
Ah, oui.
Sirène de Copenhague, elle est comme ça.
Alors, elle est en oiseau, la sirène de Copenhague ?
Non, justement.
Mais non, elle est en poisson.
Donc l'idée, c'est que, alors, en fait, elles chantaient, et puis donc leur chant était tellement beau, elles jouaient de la lyre, tout ça, que les navires arrivaient au niveau des rochers, et puis se fracassaient sur les côtes de Sicile. Et donc dans la mythologie, Ulysse, il avait été prévenu par Circé, que les sirènes allaient l'attirer. Et donc il avait fait fondre dans les oreilles de ses marins, il avait fait fondre de la cire pour pas qu'ils entendent. Et lui s'était attaché à la proue du bateau. Et il avait demandé à ses marins, à chaque fois qu'il demandait de les détacher, il devait serrer encore les liens plus forts pour éviter la tentation. Et c'est comme ça qu'il a réussi à vaincre le chant des sirènes. D'ailleurs, les sirènes, tellement elles étaient dépitées qu'elles se sont suicidées en se jetant dans la mer.
Ah oui, donc du coup, oui, c'était des oiseaux, parce que sinon, c'est des poissons. Je me suicide. Un poisson qui se suicide en jetant dans la mer, c'est pas gagné pour lui. Hein.
Ouais, c'est mal barré, quoi.
Ouais.
Et puis, il y a eu dans la mythologie scandinave, il y a les sirènes à queue.
C'est ça.
Donc là, ça, la mythologie, c'est surtout, on appelle ça la Margir. Margir, c'était un monstre marin, ça s'appelle la géante des mers. Et c'était un peu, voilà, c'était une déesse qui vivait dans la mer. Et c'est ça, l'origine de la sirène scandinave. C'est une femme à queue de poisson, mais avec un corps de femme.
Quoi. D'accord.
D'ailleurs, il y a plusieurs noms hein, dans la mythologie. Donc, là, c'est les Margir en Scandinavie. En Russie, elles sont appelées les Rulsaki. Et puis, donc, en Écosse, c'est les Méroses. Et je ne savais pas, en Bretagne, on les appelle les Mary Morgan. Et elles vivent au large de Ouessant. On appelle ça des Mary Morgan.
Hey, t'as vu la Mary Morgan? Bah, c'est bizarre ça.
Oui. On parle comme ça les Bretons.
Bah, je sais pas.
Et petit à petit.
Enfin, c'est pas glamour quand même.
Donc au Moyen-Âge, il y a beaucoup de. Les peuples, ils prennent la mer, tout ça.
Oui.
Et petit à petit, donc les marins, ils ont croisé des lamantins, des dugongs, ça s'appelle.
Oui. Enfin,
des lamantins. En fait, c'était des animaux un peu comme des morses, je sais pas, avec des longues queues, tout ça.
Mais
des grosses mamelles.
Ils ont confondu ça avec des sirènes.
Ils ont confondu ça avec des sirènes. C'est comme ça qu'est rentré progressivement l'idée que les sirènes, en fait, c'est des monstres marins avec une queue.
Ah, voilà. D'accord.
Et on a complètement occulté l'aspect grec oiseau.
D'accord. Il savait ça, Lucas ?
Mais, hein ?
Lucas, tu savais ça ? Un peu en cours d'histoire. Ah, un peu. Tu savais que c'était des oiseaux, les sirènes ?
Ouais, on avait vu ça en cours d'histoire.
Faut qu'on y retourne. Voilà.
À chaque fois, la sirène, elle n'est pas très gentille. Hein. C'est considéré comme un peu un monstre. Il faut attendre vraiment.
La petite sirène de
Andersen,
Disney.
Voilà, ouais. Le Danois qui a écrit La petite sirène en 1835, pour voir enfin une sirène gentille et romantique. Donc le mythe de la sirène, voilà, amoureuse, voilà, une belle femme, c'est une invention assez récente.
Hein. Okay.
Mais c'était considéré comme des, apparemment comme des monstres.
Des monstres. Bon, ok. Bon.
Sympa.
Eh bien, merci Olivier pour toutes ces informations. Allez, elle est là, oui. Enfin, de retour. Depuis plusieurs mois, le taux de suicide des auditeurs avait terriblement chuté. Il était temps de remettre une couche sur le mal-être. On est pourtant bien avec elle. Mais voici la chronique de Manu.
Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style.
Ah, t'as la référence ?
De...
Là, pourquoi ce jingle pour toi ?
C'est Psy.
Ah oui, c'est Psy.
C'est Psy, bah oui.
J'avais mangé son nom, à vrai
voilà.
dire.
Voilà, bah, c'est Psy.
Chanteur Psy.
Attends, alors
on a parlé de psychologie.
Oui, de psychiatrie même.
Psychiatrie.
De psychanalyse.
Ou de psychanalyse. Oui, parce que c'est... nous, on mélange tout, effectivement, mais bah, je pense qu'on va en savoir plus.
Donc ce sujet, tel un long fleuve tranquille, prend sa source dans une discussion avec Bruno quand il me raconte qu'il va jouer un rôle de psy dans un court-métrage tourné au Sésame.
C'est vrai.
Sésame, hôpital psychiatrique, je le rappelle.
Ils m'ont laissé sortir. Hein.
Il s'agit du rôle de sa vie. Rôle ouais. qui dure 30 secondes en réalité.
S'il n'est pas coupé au montage, hein, je ne sais pas.
S'il n'est pas coupé ouais. au montage. La perfide que je suis lui demande, psychologue ou psychiatre ? Je m'aperçois que pour le commun des mortels, n'ayant pas eu affaire de travail psychanalytique, il s'agit de faire quelques petites révisions que je vous propose ce soir. Alors aujourd'hui, dans CMA, dans une visée un peu didactique mais pas scientifique, je vous le promets, je m'en vais vous raconter l'histoire de Bruno.
On ne parle pas de Bruno.
Non pas notre maître à tous ici présent, mais Bruno, l'homme dans la tête duquel germa l'idée de la psychanalyse. Bon, d'accord. En fait, il s'appelle Sigmund. Sigmund.
Ouais, Bruno Freud, c'est moins.
Ouais. Mais vous allez vous en rendre compte, il aurait pu s'appeler Bruno, je vous assure. Vous remplacez Sigmund par Bruno et ça marche à tous les coups. Mmh. À commencer par le traitement de la souffrance humaine. Bisous, bisous, cœur, Bruno.
Bisous, bisous, Sigmund.
Reprenons. Pulsion, inconscient, refoulement, sexualité infantile, inhibition, tout cela existait déjà avant moi. Mais moi, j'en ai révolutionné leur signification. Et tout ça tient à l'inconscient qui gouverne le fonctionnement de la pensée. Donc, Lucas, écoute, on résume. À ce moment très précis du début du XXe siècle, et oui, retour en arrière, on sait depuis 400 ans, grâce à Copernic, que la Terre n'est plus le centre de l'univers. On sait depuis 50 ans, grâce à Darwin, que l'homme n'est plus en tête de la lignée animale. Et voilà que moi, Sigmund, je vous apprends que le « moi » n'est plus maître dans sa maison. Alors où va l'homme ? On ne le sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y va à vélo. Petite blague d'écolo. Mon hypothèse est que toutes les pensées qui arrivent en partant d'un certain point sont en connexion avec le point de départ. D'où la règle fondamentale de la libre association qui prescrit au patient de tout exprimer, même si une idée lui paraît désagréable, absurde, futile ou sans rapport avec le sujet. Un peu comme un édito de Bruno.
Oh non, mais arrête mais, mais qu'est-ce que t'as ? Ça fait longtemps, je lui manquais, je lui manquais.
C'est ça.
L'expression des associations d'idées s'accompagne de la libération d'affects refoulés. C'est à l'interprétation de ce matériel, à la fois procédé d'investigation et traitement, que je donne le nom de psychanalyse. Grâce à cette technique, le patient apprend à dire ce qu'il n'avait pas pu exprimer dans le passé, voire même ce qu'il avait rejeté pour se défendre de sa conscience. En résumé, et à l'instar de Bruno, je crois en la puissance des mots. C'est gentil ça.
Oui, ça va.
Par ailleurs, dans mon approche de la psychanalyse, l'art est directement lié à la question de la sublimation et à l'exercice de la sexualité, mais dévié de ses objectifs de reproduction. La culture comme prix à payer pour sortir de l'animalité. Ouais, je le sais, c'est pas très catholique tout ça, et c'est ainsi que j'entends le grincement de quelques dents du côté des bien-pensants. Mais moi, Sigmund, je pense que l'art permet aux pulsions les plus intenses, les plus profondes, les moins acceptables de se réaliser en un objet placé plus haut sur l'échelle des valeurs sociales. Mais attention, petits esprits, la sous-culture vous guette. Le temps de cerveau disponible se réduit et il faut aussi savoir que le risque de régression nous menace en permanence. pour le dire plus simplement, Nabila est là avec ses préoccupations champouinesques.
Non mais allô quoi.
Que
non,
nous dit-elle de nous en réalité? Oui, oui, oui. Alors, fantasmer comme des bêtes. Moi je peux plus, je suis mort. Mais je vous en conjure, continuez d'aller au musée. Alors oui, je sais que ma discipline, même 100 ans après, n'a pas fait preuve scientifiquement de son efficacité. En revanche, les contemporains classent l'analyse comme une expérience inclassable, subversive, qui permettrait à l'homme de retrouver ce que la science lui aurait ravi, sa parole, son désir, sa singularité, son inconscient. Alors oui, je l'affirme, à cœur et à cri, la psychanalyse, c'est beaucoup mieux après.
Ah, ah, ah oui. Donc en fait avant Freud, il y avait pas, ça n'existait pas.
Non,
c'est lui qui a inventé le mot aussi.
C'est lui qui a mis en avant le domaine de l'inconscient.
L'inconscient et en fait, le moi le machin,
l'inconscient qui s'exprime à travers nos pensées.
Mais il parlait que de cul aussi, hein, faut dire.
Bah oui, mais en même temps le refouler c'est quoi? Eros, Thanatos.
Mais
tout
depuis
ça,
on en est revenu, il y a quand même pas mal d'écrits qui disent que quand même tout n'est pas forcément lié à ça. Il est un peu critiqué, je trouve, Freud.
Il est très critiqué. Maintenant, je pense que c'est une discipline nécessaire. Elle n'a pas fait preuve de sa réalité et de son efficacité. Pour autant, les résultats qu'on en voit sur le divan, par exemple, sont quand même assez importants. Voilà.
Ils viennent du dialogue, en fait, aussi. Pour eux.
Ça vient du dialogue, mais c'est pas que du dialogue, en fait. Ça, c'est la version un peu tronquée. Mais en fait, c'est pas que le dialogue. C'est la substance, c'est le mot qu'on utilise. C'est le sens dans lequel on donne les mots qui fait la matière première de ce qu'on va travailler.
Mais alors, c'est quoi la différence entre psychanalyste, psychiatre, psychologue, psy... C'est ça, le truc.
Alors, on peut être psychiatre et pratiquer la psychanalyse. On peut être psychiatre sans être psychanalyste. On peut être psychologue clinicien. On peut être psychologue et ne pas pratiquer la psychanalyse. Et on peut être psychologue et psychanalyste. Voilà.
Donc en fait, ça veut me dire quelle est la différence.
Un psychologue et un psychiatre, ce sont deux disciplines. L'un est médecin, l'autre ne l'est pas.
Alors lequel est médecin?
Mais la psychanalyse, c'est une technique.
Le psychiatre est médecin.
Le psychiatre est médecin.
D'accord. Donc lui, il est reconnu.
Il est docteur en médecine.
D'accord.
Il a fait une spécialité en psychiatrie. Il traite les pathologies à travers différentes techniques, dont la psychanalyse. Mais maintenant, on en a plein d'autres. C'est un traitement parmi tant d'autres.
Mais du coup, il soigne les entre guillemets malades. Si c'est un médecin.
Alors, c'est le grand débat entre qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pathologique.
Ouais, c'est ça,
voilà.
C'est
ton esprit. Tu mets un clown au milieu de gens en costard, le différent c'est le clown, mais tu mets un mec en costard parmi les clowns, c'est plutôt lui qui est un peu étrange. Donc, c'est toute la définition du normal et du pathologique. Voilà, on pourrait passer des heures.
Ça va, Lucas, c'est bon? Ouais. Je te rappelle que tu as philo l'année prochaine au bac. Donc il va falloir que tu commences
à... Tu travailles dans ta copie. Alors, selon
Manu.
Un psychothérapeute, c'est un psychiatre?
Un psychothérapeute peut être psychiatre.
Ah oui, c'est pas la même chose.
Mais il ne l'est pas nécessairement.
Mais alors, ça veut dire qu'avant Freud, ça n'existait pas ce genre, parce qu'on entend toujours parler des philosophes.
Ouais,
et donc, du coup, qui permettait de...
C'est une discipline qui n'existait pas. En fait, ça trouve sa source dans notamment l'hypnose. Enfin, voilà, plusieurs techniques comme ça qui ont été... Et d'ailleurs, Freud s'est beaucoup inspiré de l'hypnose. Mais en soi, ça ne suffisait pas à combler sa curiosité.
Donc, la folie ou l'anormalité par rapport au groupe, etc., avant lui...
C'est complètement différent.
On savait pas ce que c'était, quoi.
Si, la folie, on la décrit depuis l'Antiquité.
Ouais.
En fait, là, tu opposes deux choses qui n'ont rien à voir, qui peuvent ne rien avoir à voir. En fait, la folie, elle existe depuis toujours dans les sociétés. C'est là que je disais entre le normal et le pathologique. Mmh. Voilà, il faudrait déjà définir ce qu'est le normal et ce qu'est le pathologique. La psychanalyse, en soi, c'est une technique de prise en charge, c'est une technique de soin.
D'accord.
Voilà. Et qui a été découverte justement grâce à Freud, qui l'a initié. Et puis après, il y en a eu d'autres, hein, Lacan, tout le monde connaît, voilà. Mais au départ, Freud était un neurologue, c'était un médecin, un docteur en médecine, neurologue de formation. Donc voilà, il a été décrié parce qu'il remettait ainsi en cause tout ce qui relevait aussi de la religion. Parce que forcément, quand tu énonces des désirs refoulés, la question du fantasme, etc., la question de la sexualité non productive, non reproductive, bah forcément, là où ça grinçait, c'était du côté des religieux.
Bah, n'empêche qu'on était loin du MeToo avec Freud aussi quand même.
Ah bah, ça, c'est sûr. Ouais.
Voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Il n'était pas non plus parfait, ce monsieur.
Mais c'est une technique parmi tant d'autres, en fait. C'est pas une technique, voilà, c'est une technique parmi tant d'autres. C'est un outil de soin parmi tant d'autres. Voilà.
Très bien. Bah écoute, merci Manu. Ouais. En tout cas, c'est très intéressant. On te retrouvera à la rentrée, entre autres, dans le point G, de temps en temps, la nouvelle podcast.
Oui.
Dont voilà.
Je donne mon avis sur
la
sexualité.
Donc c'est très, très bien. En tout cas, c'est très, très intéressant.
Je sais pas si
c'est utile. Ben oui, tout à fait. Je pense que Lucas a appris déjà plein de choses, là. Hein. Tu prends des notes, hein. Voilà. De toute façon, il ne faut jamais commencer assez tôt de parler, effectivement, de ces choses-là. Une petite question de sémantique angevine maintenant. Alors, une des rues de la ville s'appelle, s'écrit M-A-I-L. Mm. Voilà. Donc, comment c'est ? Est-ce que c'est May ou Mel ? Est-ce que quand vous êtes arrivé sur Angers, vous avez trouvé cette ville
C'était galère.
Et tu savais pas si
la
ça s'appelait
la Roué, ouais. Le May, le, enfin c'était
le May, etc. Donc maintenant vous savez que ça se dit.
Le May.
Mais ça s'écrit comme un
mail. Dit le May.
Non mais oui, alors ça dépend à quelle époque tu es arrivé sur Angers.
Ah, si ça s'écrit toujours pareil. Ça
à Angers, à l'époque où l'internet n'existait pas, il n'y avait pas de débat.
Ah oui, peut-être.
Il y a un sérail, un chandail, tu dis pas.
Oui, c'est ça.
Oui, mais là le mail, ce qui arrive. Enfin bon, bref, le Graal a répondu à cette question.
Tu dis pas un éventail, tu dis un éventail.
On écoute le Graal.
Question de Lucie, on dit rue du Mel. Où ? Rue du Mail ?
Tu veux sans doute parler d'une rue d'Angers. Alors on dit rue du Mail, et je vais te dire pourquoi. Connaissez-vous le jeu du croquet ? Vous savez, les petits arceaux en fer et le manche avec un marteau au bout pour pousser une boule à faire passer en dessous. Ça y est, vous visualisez le marteau ? Comment il s'appelait ? Le maillet. Voilà, vous me voyez venir ? Un jeu proche du croquet, donc, se jouait dans un parc construit à cet effet en 1616. On appelait ça le jeu du mail, M-A-I-L, et c'était dans le jardin du mail. Cet espace de jeu fut fermé en 1651, il y a 371 ans. Mais le nom est resté pour la rue qui menait de la rive de la Maine au jardin. Elle a changé de nom en 1806 pour s'appeler rue Napoléon. Elle a repris son nom de rue du Mail en 1881. Dans cette rue de 700 mètres, on trouve en haut la mairie, au milieu Angers-Loire Métropole et en bas les Restos du Cœur. Non, pas de corrélation, c'était juste pour l'info.
C'est l'info qui tue, ok. C'est noté. Donc c'est bien Mail, parce que c'est Maillet. Voilà, Mail,
oui,
Maillet.
Maillet, ça marche pas. Mais c'est une rue qui est quand même en pente.
Oui.
Comment on fait pour jouer au...
Alors, dans le Graal, ils expliquaient que c'était le jardin du Mail qui est au-dessus, qui est plat. C'est là qu'on jouait. Et donc, on arrivait au jardin du Mail par la rue du Mail.
Eh bien, moi, je propose qu'on remette le jeu de croquet sur le jardin du Mail.
C'est vrai.
Ouais.
Tout à fait. Mmh. Allez, le Graal est à retrouver sur vos plateformes de podcast. Et vous pouvez aussi le voir en vidéo sur Question Graal d'Instagram et Facebook. Est-ce que vous vous souvenez du top 50 ?
Ouh là là, oui.
Top 50. Lucas, top 50, ça dit quelque chose, top 50 ? Non, ça lui dit rien du tout. Les autres, un peu
Marc
plus quand
Mesca.
Même.
Bah, évidemment.
Par rapport aux yeux, connaissez mieux. Émission mythique au lancement de Canal+, en 1984. C'est le classement des meilleures ventes de disques, 33 tours et 45 tours. Puisque, effectivement, à l'époque, on ne parlait pas de CD et encore moins de streaming. Eh bien, c'est une façon objective de faire un hit parade. Le problème, c'est que les goûts musicaux de la population n'étaient pas du tout les mêmes que ceux des programmateurs et des professionnels du secteur. Ainsi, on a eu La Danse des Canards et Licence 4 pendant de nombreuses semaines en numéro 1. Alors le générique de l'émission, bah, c'est un peu notre Madeleine de Proust, pour beaucoup.
Ouais. J'adore.
Alors Lucas, ça lui donne rien du tout. Hein. Ouais. Regarde la vitesse des génériques de l'époque. On a l'impression qu'il est mis... Ah oui, ça sent... Alors... Il y a Florian qui est en train d'essayer de jouer à Ozu sur le top 50. Et là, t'appuies toutes les minutes. C'est long.
C'est bien pour moi, ça va à mon rythme.
Alors, ce top 50 avait été initié par le syndicat national de l'édition phonographique, le SNEP. Et si aujourd'hui le top 50 n'est plus un programme télé, bien le SNEP existe toujours. Et il édite toutes les semaines les meilleures ventes de musique. Et là, on prend en compte maintenant les écoutes en streaming autant que les ventes physiques pour se rapprocher d'un classement représentatif des goûts des Français. Mais la différence avec le avant, c'est que la musique ne se partage plus en famille de façon multigénérationnelle, sur la chaîne du salon par exemple, ou même à la radio. Hein. Là, c'est chacun pour soi sur son Spotify. Et si les vieux sont bloqués dans les années 80, les jeunes, ils ont repris la main sur un classement qui leur est maintenant propre. Et vous allez voir qu'avec les chroniqueurs de ce soir, nous sommes complètement largués, puisqu'à part les radios spécialisées, très peu de ces titres sont en boucle sur les ondes et pourtant les streams et les ventes cartonnent pour eux. Voici les 10 titres les plus populaires commercialement en France cet été 2022 et je vous mets au défi d'en connaître au moins un. Alors déjà le champion de tous c'est Gazo. Est-ce que vous connaissez Gazo ?
Non. Voilà. Ah, c'est, alors il est quand même un peu gazo, quand même un petit peu. Voilà. Alors gazo, c'est 5 titres dans le top 10.
Oui.
Ah oui. Ah oui, 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 quand même. Oui, ah oui, pas...
C'est un rappeur français.
C'est un rappeur. Alors justement, allez, on y va. 10e position de gazo, ça s'appelle Fleur. J'ai pris différentes gueudres, ça n'est même plus à guédra. Faut qu'on finisse sous tes draps. Trop défoncé, je sous-côté. Il ne chante plus mon cœur, chante plus mon pouls. J'ai trop de haine pour te faire l'amour. C'est gazo. On fera si on se revoit. Alors en 9ème position, bah c'est gazo aussi, voilà, avec Céline. Hey, hey, ma monnaie ne fait que m'embellir. Voilà, rap, je fais des délits. J'ai chassé ma repée, j'ai sali. J'ai pas dit, mais je m'habille en silence.
En fait, les rappeurs, ils embauchaient des gens pour écouter, mais en boucle.
Alors ça, ça se faisait également du temps de top 50. Les producteurs achetaient les disques par centaines dans les magasins pour le faire monter dans le top 50 pour qu'il soit le plus vendu. Donc ça a toujours existé, mais c'est sur des échelles tellement grandes que maintenant... Et alors le Snap, hein, j'ai vérifié, c'est sur mesuré en streaming sur les streamings payants, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment abonnés. Donc voilà, ils essayent de limiter au maximum. Jules.
Ah oui.
Jules. Ah, Jules, un petit peu. Donc, ça, c'est numéro 8. Ils ont fait les bâtards et moi j'ai tout vu. Ils ont voulu ma part et moi j'ai tout su. En ce moment, c'est pas crédible. Lucas, Jules, oui. T'aimes un micro, Jules.
Oui. Je connais, mais j'écoute pas.
T'écoutes pas, du tout. Ouais, on dit ça. Je
pense que ça y est, je suis vieux.
En 7ème position, est-ce gazo. Que vous connaissez, non pas encore gazo, mais Rema.
Oui,
c'est pas mal ça, calm down. Ouais,
ah oui,
enfin là c'est pas en français, mais effectivement il y a beaucoup de français. En 6ème position, c'est
gazo.
Ouais, bah oui, forcément il y en a 5, donc on va voir. Molly. Mon sang détruit physique. Codé médical. Comme si j'avais pris. Bon, en même temps, vaut mieux peut-être pas savoir ce qu'il dit, c'est pas CSP. Hein. C'est un dictionnaire de rimes, c'est un peu. En même temps, à notre époque, licence 4 et puis la danse des canards, franchement. Donc, au niveau des paroles, on n'était pas non plus. On comprenait, oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'était bien de comprendre? Je suis pas sûr. Allez, 5ème position, Zeg. Zeg P. Non,
bien sûr.
Zeg P, bien sûr, et on y va. J'ai passé toute la night à compter mon oseille. Fade up. Je t'emmènerai n'importe où cette life m'amène. Bon, 4ème, gazo, hein. D'aussi loin que je m'en rappelle, sans rien faire pour moi. En 3ème position, Alonso, avec tout va bien. Je suis sur my eyes only dans son bigo. Bébé va rentrer tard, je la charge en moto. En deuxième position, ouais, gazo avec body. Bon, voilà. Et en première position, fraîche avec shop. J'essaie d'écrire de grandes choses, mais j'ai plus les mots. Ouais, bah moi non plus, j'ai plus les mots. Donc on est loin de la danse des canards quand même. Mais d'un côté, on a quand même une majorité de paroles en français. Mais pour le reste, c'est bien que des chansons de jeunes hommes. Alors que des hommes, effectivement. Et qui veulent du fric et se taper des meufs. Donc voilà, le hashtag MeToo n'est pas encore arrivé dans le rap. Donc c'est un style particulier. On aime, on n'aime pas. Hein. En tout cas, ça se vend. Et est-ce que c'était mieux avant? Bah, je sais pas. Voilà. Il est maintenant temps, maintenant, de découvrir le CMA Plus de la semaine. Lucas est en train de vous regarder comme des débiles. Hein. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils tapent tous? Pourquoi ils sont frénétiques? Pourquoi ils tapent comme ça?
Alors, sinon, on met un carreau.
Je t'explique, Lucas. Chaque semaine, il y a un panel d'auditeurs qui donne son avis sur les chroniques de l'émission précédente. D'accord. Et donc, il y a un vote. Non, du tout. Et donc, suite au vote, il y a un sujet qui rentre dans les podcasts plus de Radio G, donc c'est le CMA+. Alors, qui cette semaine a remporté le CMA+? La semaine dernière, on a parlé de soldes, de vulve, de bronzage, de glace, de plage et de vélo.
Oh, c'est la vulve.
Alors, je sais pas vous, mais j'avais ma petite idée. Voilà, connaissant un peu nos auditeurs... D'ailleurs, voilà, j'avais mis d'ailleurs la photo sur la promo, je sais pas si vous l'avez vu de l'émission. Bref, oui, évidemment, c'est le sexe, ça marche toujours. C'est donc Pauline et sa vulve qui gagne. Voilà.
Donc, bah, en tout cas, bravo. Hein. Et puis, c'était une belle leçon, effectivement, d'éducation sexuelle.
D'anatomie.
Chronique très engagée, effectivement.
Ouais, non, c'était vraiment très, très bien. Merci aux chroniqueurs et queuses de ce soir. Merci, Florian.
Eh ben, merci.
Merci, Mathias.
Merci, bonne soirée.
Merci, Olivier.
Merci, bonne soirée.
Merci, Manu.
Merci.
Et puis, merci aussi à notre public ici. Nico, tu veux dire un petit bonjour ? Non, c'est bon, comme ça, bonjour de loin, ok. Et merci à notre chroniqueur du soir, Lucas.
Merci.
Allez, un petit bonjour, dis bonjour à tes parents, dis bonjour, vas-y, vas-y, tu es sur les ongles, là.
Une petite dédicace.
Ah, une petite dédicace, yo, yo, yo.
Dédicace.
Allez, pour la
frangine.
Pour la maman, non. Non, il veut pas. Ouais, non. Non, mais en tout cas, t'as assuré, hein, il a assuré.
Bravo.
C'était très très bien. Voilà, tu reviens quand tu veux. Allez, on se retrouve très vite sur les ondes ou dans les podcasts. Cherchez CMA, vous nous trouverez. D'ici là, n'oubliez pas qu'on ne peut pas être sans avoir été. C'était CMA. Yeah.